Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons encore écouter un cantique de deux sœurs, qu'elles puissent déjà venir devant. Et si il y a encore deux sœurs qui veulent chanter en Pologne, en polonais, ce serait très bien. Nous avons des talents parmi nous. Je sais que tous savent bien chanter, particulièrement nos frères et sœurs de l'Afrique. Ils chantent de tout leur cœur, de toute leur âme, et même avec parfois tout le corps. Oui, venez chanter un chœur, un cantique. C'est merveilleux quand on écoute de tels cantiques. Ça rentre profondément dans le cœur. Tout notre désir, c'est d'être prêt pour l'heure du retour de notre Seigneur. Que ce ne soit pas en vain que nous ayons marché, mais marcher pour atteindre le but. Pour être là-bas où il n'y aura plus de douleur, de pleurs, de larmes, de mort, pour toujours auprès du Seigneur. Maintenant, nous écoutons les deux sœurs encore, qu'elles puissent nous chanter un cantique en polonais. Tous ceux qui connaissent les langues slovaques ont reçu beaucoup de choses. Mais tous nous avons ressenti l'esprit. Il s'agit toujours de ce sujet central. Seigneur, pour moi, à Golgotha, tu as souffert. Et tu es allé pour préparer une demeure. Et tu reviens bientôt pour me prendre, pour nous prendre auprès de toi. Notre désir est grand, oui. C'est bien de ce que aussi nous avons la grâce de comprendre aussi terrestrement plusieurs langues. Et de toute manière, nous ne sommes pas perdus, mais nous pouvons partout nous retrouver. Encore aujourd'hui, nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur. Et je voudrais poser la question, qui ce week-end serait aujourd'hui ici pour la première fois? Levez courtement les mains pour que nous puissions le voir. Qui serait ici pour la première fois? Là-bas, il y a une main. Là-bas. Et nos amis de Nizza et d'autres parties de la France et de la Belgique, de tous les pays voisins, Dieu le Seigneur, qui puisse nous bénir tous et qui soit avec nous tous. Ici, ce n'est pas une cathédrale en cristal avec des fauteuils pour s'asseoir et un bâtiment monstrueux. Nous ne sommes pas comme ça des théologues. Et nous sommes des hommes simples. Nous réunissons ici pour nous préparer pour la gloire, mais avec Dieu. Réunis avec Dieu. Mais car sans lui, nous ne voulons faire aucun pas. Et mais avec lui, nous voulons entreprendre tout le chemin, dans l'obéissance de la foi, jusqu'à que nous passons de la foi à la vue. Quand nous regardons dans le monde, comme déjà hier courtement cela a été mentionné, alors nous ressentons la réunification du capital, des religions, des finances. C'est un temps d'union, comme déjà frère Branham avait tenu une prédication il y a des années déjà passées sur cela. Ce sont les signes et les temps d'union. Et tout se réunifie et nous voyons, nous ressentons que vraiment tout cela va vers la fin. Mais nous demeurons malgré tout sobres et clairs en toutes choses jusqu'à que le Seigneur revienne. C'est très important de reconnaître d'un côté le temps et malgré tout, terrestrement et spirituellement, agir et se conduire sobrement et réellement, et dans les deux domaines en même temps, spirituel et naturel, et se comporter sans les mélanger les uns les autres, parce que nous vivons encore sur cette terre. Dans le domaine terrestre de notre vie prend son cours, nous buvons, nous mangeons, nous allons à notre travail, nous nous habillons comme tous les hommes. Nous sommes nés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, nous allons devoir, de la même manière, vivre dans le domaine naturel et aussi, bien sûr, en même temps dans le domaine spirituel, mais sans les mélanger. Nous sommes liés de tout notre cœur avec le Seigneur et malgré tout, terrestrement, nous vivons d'une manière que nous ne sommes pas un scandale pour les incroyants. Nous restons sobres et sages jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En toutes choses, nous restons sobres. Et nous nous sommes réjouis avec tous. Comme il n'y a pas longtemps, tous ceux qui se sont mariés, qui ont fait l'alliance pour la vie. Et là, nous pensons très particulièrement à notre bien-aimé frère Eugen, Dante Heissen, que nous connaissons depuis très longtemps. Le mariage était le 24 du mois dernier et nous avons pu nous représenter si souvent dans sa maison bâtie. Il était pendant 7 ans seul et vous pouvez vous représenter combien de temps pour lui les soirs ont duré. Et nous pouvons aussi bien nous représenter comment est-ce que cela ressemblait, comment est-ce qu'il ressentait, alors que avec sa Sandra, il a pu entrer dans cette maison qu'il avait déjà préparée pour elle. C'est la même chose aussi avec notre époux céleste. Il a préparé une demeure. Quel jour ce sera quand nous pourrons entrer dans cette maison, dans cette demeure? Nous nous réjouissons déjà maintenant que sans vouloir nous élever, nous avons la grâce consciemment d'appartenir à l'église épouse. Et nous avons la preuve dans les saintes écritures. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit parce que nous écoutons ce que l'Esprit dit à l'église. L'époux parle à l'épouse. Ça, c'est très important. Tous les autres n'écouteront pas ce que l'époux a à dire à l'épouse. Ça ne leur signifie rien du tout. Parce que ils n'ont pas dans leur cœur, dans leur vie, cette relation d'épouse avec l'époux céleste. Seulement quand nous avons une relation d'épouse à l'époux céleste, réelle dans notre cœur, c'est ainsi alors que la parole de l'époux a une signification pour nous et qu'il pourra nous révéler les secrets de sa parole dans notre cœur. Et ça, nous avons la grâce dans notre temps de l'expérimenter. Que l'époux parle avec l'épouse, il lui exprime les secrets, les mystères de sa parole. Pour les autres, c'est sans signification, sans importance. Ils sont comme ça, ils ne sont pas introduits dans le programme de Dieu, et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas avoir de la compréhension pour ce programme de Dieu. Quand nous regardons courtement dans le domaine terrestre, qui aussi prend son cours, et là particulièrement, je pense à ce qui concerne Israël et Jérusalem, cela est une douleur au-dessus de toute chose de constater que Israël, qui est le peuple élu de Dieu, doit passer par des chemins si difficiles. Et nous souffrons avec Israël et nous allons nous réjouir alors quand Sion ne sera pas seulement en douleur d'enfantement, mais quand il y aura une naissance sur cette montagne, parce que Dieu l'a déterminé ainsi. D'un côté, nous voyons accompli ce qui est écrit dans Genèse chapitre 16, au verset 12, d'Ismaël, qu'il sera un homme comme un âne sauvage, et que sa main sera contre tous. C'est ainsi que c'est écrit dans la parole de Dieu dans Genèse chapitre 16. Et c'est ainsi que c'est. Toute la postérité d'Ismaël, tout le monde arabe, et n'est pas comptable. Et on doit vraiment le dire. Il n'y a pas de juif qui haït les arabes. Mais il n'y a aucun arabe qui ne haïsserait pas les juifs. J'ai eu à prêcher dans tous ces pays, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, dans tous ces pays. Et je n'oublierai jamais ce dimanche matin. À Aleppo, une ville à peu près 320 km éloignée de Damas. Et alors que j'ai fait que mentionner Israël à la fin de la prédication s'est terminée. On m'a plus ramené au bus. On n'a pas appelé un taxi pour moi. Les prédicateurs, à leur nombre, se sont mis en colère. Seulement parce que j'ai mentionné Israël en relation avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Ils ne m'ont même pas dit au revoir. J'ai dû partir. Même parmi les chrétiens. Ouais. Quelle sorte de chrétiens existent dans ces endroits? Ce ne sont pas des chrétiens dans lesquels Christ a établi sa demeure. Ce sont des gens qui sont nés dans une religion christianisme. Ce ne sont pas des hommes qui sont nés de Dieu, nés d'en haut, pour une espérance vivante. Le mot Christ signifie ouin, en fait. Le mot chrétien signifie ouin. Ouin, ouin. On peut être en fait chrétien, c'est-à-dire ouin, mais sans avoir reçu un nouveau cœur, une régénération. C'est comme Saül, qui avait reçu l'Esprit de Dieu, mais qui n'était pas transformé, qui n'était pas devenu une nouvelle création. C'est comme ça que David différait de Saül. Et c'est ainsi que Dieu a son chemin avec son peuple. Seulement les élus peuvent discerner la différence et peuvent ordonner les choses de la bonne manière. Nous avons eu déjà à le dire. Cela est écrit noir sur blanc. Si ces gens font, quand ces gens font la terreur, ces Arabes font la terreur, en général, ce sont de très jeunes personnes. Et ils reçoivent de l'argent. Ce n'est pas eux qui reçoivent de l'argent, mais c'est la famille de ce jeune homme qui reçoit de l'argent. Et ils se mettent d'accord sur le prix. Le jeune qui fait la terreur. Alors, on récompense les parents, la famille. Et alors, ils sont responsables de cela. Alors, cet homme l'a dit, si il fait cette terreur-là, alors, il y a 72 vierges femmes qui l'attendent au paradis. S'il fait cette erreur, et sa famille qui reste, ses parents et tout ça, sont aussi pour toute leur vie assurés. Un jeune homme qui n'est pas marié, célibataire, il pense tout de suite que s'il meurt dans la terreur, il ira au ciel. Et c'est ainsi que sa famille sera assurée pour toujours. Alors, avec tout le zèle, il va et la terreur est faite. Or, quand on constate cette tromperie et que tout cela est fait au nom d'Allah, le Dieu puissant, toutes choses sont faites de cette manière. Mais bien aimé, tout le monde entier, en fait, ne veut même pas écouter la véritable vérité de la parole de Dieu. Le monde entier est né dans la tromperie et veut être trompé. Celui qui aujourd'hui prêche la vérité, et aussi dans les domaines qui concernent Israël, on dit la vérité, les gens ne veulent même pas écouter la vérité sur cela. Pourquoi? Parce que le monde entier, dans la réalité, est seulement menti, trompé et égaré. Mais Dieu a son chemin. Malgré tout, nous constatons aussi, nous voyons aussi que les choses prennent leur cours, peut-être plus que nous le pensons encore. Mais dans la parole d'introduction, nous avons entendu que il y a un développement ferme lié au conseil du salut de notre Dieu. Et que Dieu, à l'avance, a déjà dit toutes choses et planifié toutes choses. Et que le temps doit seulement être accompli pour que ces choses planifiées par Dieu à l'avance s'accomplissent. Ainsi, nous voulons remercier Dieu le Seigneur de ce que dans ce temps si important, oui, le temps le plus important, mes bien-aimés frères et sœurs, de toute l'histoire de l'humanité, dans ce temps dans lequel nous vivons, qui est le plus important de toute l'histoire de l'humanité, il a envoyé un ministère prophétique avec la parole, la révélation sur la parole prophétique. Et que cela soit dit clairement, les 9 dons de l'esprit ont été accordés aux croyants et introduits dans l'église par le déversement du Saint-Esprit. Et ces dons de l'esprit, particulièrement les premiers 3 dons de l'esprit, avec le parler en langue, la prophétie et l'interprétation, sont dirigés pour destinés pour toute l'église et peuvent être exercés par des frères et des sœurs de la même manière, utilisés si cela est la volonté de Dieu, si cela est la volonté de Dieu. Mais quand il s'agit du ministère, quand il s'agit des ministères, alors c'est seulement des prophètes, des apôtres, des pasteurs et des docteurs et des évangélistes qui sont mentionnés. Je ne vais jamais, pour aucun homme sur terre, transformer la Bible telle qu'elle est écrite. Je vais la laisser écrite telle qu'elle est et la croire telle qu'elle est écrite. Et nous nous réjouissons aussi sur tous ceux qui prennent la parole de Dieu au sérieux, même en ce qui concerne le vêtement. Il n'y a pas longtemps, les vêtements, il y a un compte-rendu qui m'a réjoui. L'une de nos sœurs, je ne vous pose pas la question qui est-ce que c'était, ma mémoire est très courte, c'est très bien. Et au travail, on lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous portez pas de pantalon? Et la sœur, et cela lui a été donné comme tirant son revolver. Elle a répondu rapidement. Elle a dit, mais chez nous, il y en a un seul qui a le pantalon et c'est mon mari. Chez nous, il y en a un seul qui porte le pantalon et c'est mon mari. Et la discussion était déjà finie. Nous remercions Dieu pour de telles sœurs qui ne sont pas comme ça en train de chercher des explications, des réflexions qui les apporteraient elles-mêmes dans les problèmes, mais rapidement une question courte et claire, rapidement, sans perdre du temps, parce que la plupart des gens savent ce qui est écrit dans Deutéronome, le chapitre 22, au verset 5. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que cela serait l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu n'est pas le même dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Si Dieu dit que les femmes n'ont pas le droit de porter des vêtements d'hommes et que les hommes n'ont pas le droit de porter des vêtements de femmes, et que cela est même une abomination devant lui, alors moi, j'ai à respecter cela. Je me garderai de vouloir corriger Dieu. Et quand vous regardez dans cette grande église à Rome, regardez tous les prêtres et tout ça, ils ont tous des robes, n'est-ce pas? Des robes, tous des robes. Que ce soit des pourpous ou bien des choses, tous ces prêtres et tout ça, ils ont tous des robes, n'est-ce pas? Un véritable homme de Dieu croit chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et aussi dans ce point, frère Branham, conduit par l'Esprit de Dieu, a mis l'accent sur ces choses, a dû mettre l'accent sur les choses, montrant que c'est l'esprit de ce monde qui, le train de ce monde, que les gens transforment avec l'esprit de Dieu, qui fait les choses de cette manière, d'une manière que les gens suivent le train de ce monde. Nous n'avons rien à voir à faire avec le train de ce monde, mais nous sommes conduits par l'esprit de Dieu et et l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Et tous ceux qui sont nés de la vérité écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans Romains chapitre 8, au verset 14, il est écrit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas qui parlent de l'Esprit de Dieu, mais qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça, ce sont les véritables enfants de Dieu. Ça, ce sont les fils de Dieu. Dans Galates chapitre 3, à partir du verset 1, Paul écrit à ceux qui avaient reçu l'Esprit de Dieu. Il leur dit: mais qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé en esprit et vous voulez terminer dans la chair? La fin, c'est la fin qui sera couronnée. Et avant que la fin n'arrive, Dieu a accordé à son peuple une correction. Il a de nouveau montré la direction à prendre pour retrouver le chemin qui ramène à sa parole. Pensons à Genèse chapitre 6 au verset 3. Dieu dit là: mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Parce que l'homme ne se laisse pas corriger par l'Esprit de Dieu. Et quand nous regardons dans d'autres expressions de la Bible, l'Esprit de Dieu veut nous conduire, il veut nous diriger. Ce ne sont pas nous qui faisons avec l'Esprit de Dieu ce que nous voulons. C'est l'Esprit de Dieu qui fait avec nous ce que Dieu, dans sa parole, a promis et ce qu'il est écrit. Nous avons en cet endroit toujours vu les deux choses. Nous avons vu, et ça je le dis en tant que témoignage pour que vous sachiez, nous ne nous élevons pas au-dessus des autres. Nous avons vu ces deux choses. D'un côté, comment est-ce que l'édification de l'Église peut être les dons et les fruits de l'Esprit peuvent être à l'œuvre, les ministères peuvent travailler harmonieusement ensemble et Dieu peut avoir son chemin parmi son peuple. Mais maintenant arrive le moment où les gens n'ont plus attendu à la prédication, mais ils ont fait qu'attendre maintenant qu'une prophétie soit donnée. Ils ont mis l'importance sur le don de la prophétie. Et alors, quand une prophétie avait lieu, c'était alors la parole de Dieu. Toute la prédication n'était pas la parole de Dieu. Hein? Non, ce n'était pas Dieu qui parlait. Seulement la prophétie, alors c'était Dieu qui parlait. Et voilà, Dieu nous a laissé tomber sur notre face pour que nous puissions comprendre que c'est la parole de Dieu qui doit être placée en première place. Et que tous les dons doivent se soumettre à la parole de Dieu. Et il est écrit que l'Esprit est soumis aux prophètes. Aucun prophète peut dire: maintenant l'Esprit m'a poussé et j'ai dit ceci et cela, et j'ai fait ceci et cela. Non, non, non. Ce qui vient de Dieu servira toujours à l'édification, au bien de l'Église, et sera soumis à la parole et à la volonté de Dieu, et sera effectué dans l'harmonie. C'est ainsi que nous avons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le chapitre 14, nous avons entre le chapitre 12 et le chapitre 14, nous avons le chapitre 13, où Paul parle de l'amour, et à la fin il parle de l'amour, de l'espérance et de la foi. Et de ces trois, la plus grande chose c'est l'amour. Et il écrit que tout ce qui est en partie cessera. Notre prophétie est en partie. Notre connaissance est en partie. Tout est en partie. Mais alors, la perfection viendra. C'est seulement Dieu qui est parfait. C'est seulement la parole de Dieu qui est parfaite. Et nous avons, et ça nous le disons avec un cœur reconnaissant, nous avons personnellement expérimenté Dieu, rencontré Dieu il n'y a pas longtemps. Nous avons entendu cette expression qui disait: nous croyons en un seul Dieu. Cet homme gentil disait: nous croyons en un seul Dieu, mais nous ne l'avons jamais vu et nous l'avons jamais entendu. Mais nous croyons en un seul Dieu qui est la puissance de l'univers. Mais nous croyons au Dieu qui s'est révélé. Pas seulement en Dieu qui est esprit. Et dans ta plénitude originale était déjà dans toute l'éternité. Mais nous croyons à ce Dieu-là qui est sorti de cette plénitude d'esprit et de vie qui est sorti et qui est au commencement déjà de toute chose, s'est manifesté, est devenu visible. Pensons à Genèse chapitre 24. Alors que Exode chapitre 24, et que la loi avait été donnée et que Dieu avait fait l'alliance avec son peuple, et que Moïse et trois autres, et 70 anciens montaient sur la montagne, et il est écrit qu'ils mangeaient, ils buvaient et ils voyaient Dieu, et il n'a pas étendu sa main contre eux. C'était Dieu manifesté, révélé. Et il a parlé avec son peuple, avec son serviteur, son messager. De la même manière, cela est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un Dieu inconnu. Alors que Paul était arrivé à Athènes, il a lu cet écriteau, le Dieu inconnu. Et Paul a utilisé cette expression et a dit, mais ce Dieu que vous avez, que vous ne connaissez pas, ce Dieu inconnu, c'est ce Dieu-là que moi je prêche maintenant. Et il a rendu témoignage, il a pu rendre témoignage, parce qu'il avait eu une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité. C'est seulement alors, si nous pouvons avoir une expérience personnelle, et avec cela, recevoir la certitude du salut et de la rédemption, c'est ainsi alors que nous pourrions parler de ces choses qui pourront être une bénédiction pour d'autres et qui attireront les autres à la réflexion. Nous voulons alors, puisque nous avons entendu parler de la volonté de Dieu, nous voulons lire quelques versets bibliques concernant la volonté de Dieu. Il ne suffit pas que nous puissions prier que ta volonté soit faite, mais que cette volonté vraiment soit faite dans toute notre vie par la grâce de Dieu. Dans Galates, le chapitre 1, nous avons l'expression de l'apôtre d'une manière très merveilleuse. Galates, chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, Galates chapitre 1, verset 4, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, que tous soient secourus, mais ce ne sont pas tous qui permettent à Dieu de les secourir. Ce ne sont pas tous qui acceptent le secours, le salut. Il s'agit de la volonté de Dieu, comme nous venons de le mentionner. Et ici, il est écrit, tel qu'il est écrit, laissez-vous sauver de cette génération pervertie. C'est ainsi que Pierre termine sa prédication dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ici, il nous est dit de la part de Paul, lui qui nous a arraché du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, nous devons nous soumettre à cette volonté de Dieu et ainsi atteindre le but. De Éphésiens 1, verset 5, nous avons lu. Éphésiens 1, verset 5. Dans Éphésiens 1, verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Notre salut, d'être établi dans l'adoption, tout cela, c'est la parfaite volonté de Dieu. Et par la nouvelle naissance, nous recevons la nouvelle vie éternelle de Dieu. Et par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes abreuvés, placés dans le corps du Seigneur, et nous recevons l'accès à la plénitude de l'Esprit, et nous sommes remplis des dons et des fruits de l'Esprit. C'est ainsi qu'il nous est dit ici que nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Qu'est-ce que nous avons eu à observer hier de Romains chapitre 12 pour que nous puissions faire ce qui est bon, parfait et agréable au Seigneur? Nous avons lu hier dans Romains 12 qu'il est nécessaire que nous soyons régénérés dans notre intelligence pour pouvoir vraiment de tout notre cœur pouvoir reconnaître et faire la volonté de Dieu. Dans Éphésiens, encore une fois, nous voulons lire le verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Nous n'avons pas seulement le devenir, nous le sommes déjà. Dieu nous a déjà bénis. Il ne va pas seulement maintenant nous bénir. Il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle et céleste. Nous devons seulement nous ouvrir. Et tout ce qui est bouché, tout ce qui empêche le Seigneur de laisser pénétrer ta bénédiction jusqu'à nous atteindre entièrement, et que nous soyons remplis de sa vie en abondance, et que cette bénédiction nous remplisse. Tel que nous sentons dans un cœur, Seigneur, envoie la puissance maintenant. Alors que nous avons chanté ce cœur, cette pensée m'est venue. Si de tout notre cœur, dans la prière, nous sentions cela avec un tel désir réel et vrai, alors Dieu est alors obligé de confirmer ta parole et d'accorder ce vent tumultueux du haut des cieux. Que ce ne soit pas seulement que nous chantons ces cantiques, et nous chantons déjà cela de tout notre cœur, c'est vrai, mais que cette chose devienne une telle requête vivante, ardente dans notre cœur, d'une manière que nous ne pouvons plus rien faire d'autre que de dire, ô Seigneur, bien-aimé Seigneur, je ne quitte pas cet endroit, je reste là, si ce n'est que tu aies confirmé en moi ta parole. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, Jean chapitre 4, nous avons cette expression merveilleuse de notre Seigneur. Cette expression doit être rapportée à nous tous. Elle doit être rapportée à tous les fils et les filles de Dieu. Elle doit devenir vraie. Elle doit concerner tous les fils et les filles de Dieu, telle qu'elle était vraie dans la vie de notre Rédempteur et Sauveur. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors là, nous pensons à cette expression, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et chaque parole de Dieu qui a été prophétisée sur concernant le Rédempteur, chaque parole en lui et par lui sont devenues une réalité, n'est-ce pas, sur cette terre. La parole a trouvé son accomplissement. C'est de la même manière aussi avec nous, en tant que fils et filles de Dieu. Il faut que cette parole devienne notre nourriture. De manger la parole et de consommer la parole. Et cette parole doit pouvoir. Nous devons la recevoir d'une manière qu'elle peut nous conduire dans la volonté de Dieu. Et que cette parole qui a été accordée à l'Église trouve aussi son accomplissement dans l'Église. Nous devons être conscients. Nous devons être conscients de notre appel divin et de notre devoir en tant qu'Église dans son entièreté. Nous ne sommes pas une organisation. Nous ne sommes non plus une dénomination. Nous sommes un organisme vivant, divin, lié à ce devoir divin de prêcher dans le monde entier l'évangile du royaume, à tout ce qui appartient à cet évangile, de le porter dans le monde entier. Et c'est ainsi que la parole de notre Seigneur s'intitule dans Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14, et aussi dans Apocalypse, chapitre 14. Au verset 6. Nous ne jouons pas la religion. Nous ne faisons pas comme ça, comme d'autres qui perdent le temps, comme des charismatiques, que nous pourrions ici comme ça jouer le théâtre devant la chair. Nous avons vu cela à Jérusalem. Alors que nous étions allés à cette réunion charismatique, un soir, ils étaient dans la réalité, pas à supporter. Et de notre groupe, beaucoup sont sortis. Sont sortis. C'est rien d'autre que du théâtre. Bien habillés, toujours habillés différemment. Et ils ont fait plusieurs théâtres. Et tous avec de la musique comme ça se produit une atmosphère. C'est misérable de regarder cela. Mais je pensais que peut-être qu'il y aurait quelque chose qui viendrait. Mais pourquoi est-ce que je mentionne cela? L'écriture s'intitulait Le feu sur Jérusalem. Le feu sur Jérusalem. Mais qu'est-ce que nous avons vu? De nos propres yeux, du théâtre dans Jérusalem. Pas du feu sur Jérusalem, mais du théâtre, du théâtre. Vraiment, ils ont vraiment fait du théâtre. Ils ont fait du théâtre sur le podium. Ils venaient de l'Ukraine, ils venaient de la Russie, ils venaient de la Kyrgyzstan, et tous étaient habillés différemment. Et tous ont fait du théâtre. C'était pas du feu sur Jérusalem, c'était du théâtre dans Jérusalem. Nous ne jugeons pas. C'est seulement une grande douleur quand on voit les gens viennent parce qu'ils ont faim et soif de recevoir Dieu et ils sont trompés et occupés avec de telles choses. Nous venons revenir à notre sujet particulièrement aussi dans Jean 7, le verset 14. Nous avons l'expression de notre Seigneur et nous voulons ici le recevoir dans notre cœur. Jean 7, verset 17. Jean 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Aujourd'hui, nous voulons parler clairement. Seulement celui qui est prêt à se soumettre au plan et à la volonté de Dieu pourra alors recevoir la compréhension sur la divinité, sur le baptême, sur tout ce que Dieu en tant qu'enseignement nous a accordé. Cela sera seulement compris de ceux qui sont prêts à reconnaître que cette doctrine vient de Dieu. Seulement ceux qui sont prêts à faire la volonté. Il faut d'abord être prêt à faire la volonté de Dieu et à marcher dans sa volonté. Mais s'ils ne sont même pas prêts à faire la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que nous voulons que Dieu nous révèle sa volonté? Si Dieu sait que nous ne sommes pas prêts dans notre cœur à la faire, il ne nous la révélera pas. Même si nous le demandons, s'il constate que nous marchons dans nos propres voies et nous demeurons dans nos doctrines, pourquoi est-ce que Dieu se donnerait l'effort de nous révéler sa parole et de parler avec nous? Dieu parle avec nous seulement parce qu'il sait que nous sommes prêts à le croire et à faire ce qu'il nous dit et à recevoir de notre cœur sa parole et ainsi à reconnaître la vérité et à être libéré par la vérité et de toute erreur. Ça, c'est le chemin de Dieu avec son peuple. Maintenant, d'un autre côté, nous avons le mélange de partout, nous le voyons. Et nous voyons comment est-ce que notre Seigneur lui-même dans Genèse chapitre 6 a dit, parlant les fils des hommes et des filles de Dieu, des fils de Dieu, qui sont mélangés avec les filles des hommes. Le fils de Dieu devait venir de la lignée pure, de la descendance pure. Et voilà que le mélange a eu lieu et Dieu a annoncé la fin de toute chair. Il a dit, la fin de toute chair est devant mes yeux. Pourquoi est-ce que notre Seigneur disait, et Rédempteur disait, tel que c'était du temps de Noé, c'est ainsi que ce sera dans les jours quand le Fils de l'homme se révélera. Un mélange des enfants de Dieu avec les enfants de ce monde. Il y a eu des réveils et nous pensons particulièrement au réveil qui est venu après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai ici une fois amené le magazine des années 50 qui ont décrit que le jour de la Bible sont de nouveau présents. L'âge biblique est de nouveau présent. C'était des titres merveilleux. En ce qui concerne le ministère de Frère Branham, Bible date awaken. Les jours de la Bible sont de nouveau présents. Ils étaient présents, c'est vrai. Parce que Dieu avait fait un nouveau commencement. Mais les jours de la Bible viennent. Quand les jours de la Bible sont présents, alors ce qui est écrit dans la Bible doit aussi avoir sa valeur et doit être de nouveau prêché. Alors les gens disent oui, oh les jours de la Bible sont de nouveau là, mais chacun marche dans ses propres chemins et fait ce qu'il veut. Mais Dieu, en manifestant les âges bibliques, nous ramène à la Bible, à sa parole, nous donne de revenir à lui. Ça ne sert à rien du tout de dire oh l'âge de la Bible est revenu, le réveil est présent. Non, Dieu a toujours eu un objectif quand il faisait quelque chose et il se manifestait de manière surnaturelle. Et aussi avec le ministère de Frère Branham, que ce ne soit pas que comme ça nous utilisons des citations dans toutes les directions du ciel et que nous interprétons ces citations, nous interprétons ce qu'il a dit sans que nous voulons le comprendre. Non, il s'agit que par cette citation, par la parole de Dieu, nous puissions être ramenés dans la Sainte Écriture, dans la Bible et ainsi être introduits de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans tout le conseil de Dieu révélé. La grâce de Dieu m'a été accordée par Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions recevoir la révélation de tout son conseil. J'avais jamais eu le désir d'avoir une propre doctrine, une propre connaissance, ou bien j'ai jamais eu le désir de faire quelque chose. J'ai jamais eu cela. Cela a été introduit ainsi dans mon cœur, comme ça, d'être une partie de ce que Dieu, il s'agit d'être une partie de ce que Dieu fait et de ce que Dieu a déterminé dans son plan. Et je pense que si tous nous regardons dans notre vie de croyants, nous constatons tous les traces, nous pouvons les suivre et nous pouvons constater comment est-ce que Dieu nous avait toujours de nouveau conduit et dirigé. C'est toujours Dieu qui nous a conduit et dirigé. J'ai chanté dans l'église, après chez les baptistes, chez les pentecôtistes, et j'ai continué comme ça toujours. J'ai toujours été conduit. Mais ça a été toujours de nouveau des stations. Ce n'est pas comme ça une station finale dans laquelle je me suis arrêté. Non, la station finale dans le sens que je suis sorti de cette station. Toujours, je suis sorti. Et quand le train s'arrêtait, je suis toujours sorti, j'ai pris un autre. Mais maintenant, il s'agit de l'achèvement de la rédemption. De la rédemption dans les rachetés. De l'œuvre de la rédemption, mais dans les rachetés. Et si nous nous fixons, si nous nous concentrons à cette pensée, d'être vraiment prêts et d'aller dans la gloire, bien les frères et sœurs, ne nous trompons pas. Nous devons maintenant déjà, avec toute notre vie, notre conduite, nos pensées, nos chemins, être amenés dans la parfaite et bonne et agréable volonté de Dieu. Nous ne pourrons jamais atteindre le but d'une autre manière, si ce n'est que Dieu nous accorde de lier à notre foi l'obéissance et de marcher dans l'obéissance de la foi et de croire et de faire sa volonté, donc de vivre en mettant la parole de Dieu en pratique. Alors, lors de l'appel de Paul, par exemple, dans Actes des Apôtres, le chapitre 22, nous constatons que tout de suite il a été dit la raison pour laquelle il avait été appelé. Il n'était pas seulement appelé pour voir la lumière et pour entendre la voix. Mais, tel qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 22, au verset 14, il me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Acte 22, verset 14. C'était un appel audible au ministère. Et cela, dans le plan, et est introduit directement dans le plan et la volonté de Dieu. Seulement, si nous-mêmes, nous sommes dans le plan et dans la volonté de Dieu, nous sommes dans ce que Dieu fait, c'est ainsi que nous pourrons donner la main d'association aux autres pour que ainsi ensemble nous soyons conduits dans ce que Dieu fait et dans son plan. C'est ainsi qu'une union réelle pourra être manifestée. Nous avons dans les petites réunions, d'une manière merveilleuse, nous avons eu déjà à l'expérimenter. Que ce soit parmi le voyage, le groupe qui était allé en Israël il n'y a pas longtemps, dans la réalité, nous étions un seul cœur et une seule âme. Que ce soit maintenant à Lausbourg, c'était vraiment merveilleux. On ressentait la présence de Dieu. Mais bien aimés, nous tous qui sommes ici réunis, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous devons être conduits par l'Esprit. C'est de ça qu'il s'agit, être conduits par l'Esprit de Dieu. Mettre de côté, notre programme, nos plans, mettre tout de côté. Nos pensées, nos imaginations, mettre tout de côté. Et dire, Seigneur, toi, parle avec moi. Révèle-moi, fais-moi connaître ta volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Accorde-moi la force pour que je puisse marcher de cette manière. Si nous faisons que venir, que cela ne réussira pas. On doit écouter la parole de Dieu avec une disposition juste. Un cœur qui peut dire, écoute Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est cette disposition que le Seigneur veut nous accorder. Parle Seigneur, ton serviteur est prêt à écouter, donc à mettre en pratique. C'est ce que Dieu veut nous accorder. Et c'est ainsi que si nous venons de cette manière et que nous avons la condition juste pour écouter ta parole, du cœur, un cœur bien disposé, nous comprendrons que ce n'était pas en fait un message d'un homme, de frère Branham. Ce n'était pas le message de frère Branham. C'était la parole de Dieu dans sa forme originale. Dieu a fait utiliser frère Branham en tant que prophète pour que sa parole soit de nouveau placée sur le chandelier et qu'au temps du soir, la lumière apparaisse avant minuit. Mais Dieu ne nous a pas déterminés comme ça à faire un bélier d'or autour de ce ministère et d'appeler les gens à danser autour de ce ministère. Dieu nous a appelés pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église et nous laisser corriger par l'Esprit de Dieu et nous ramener à la parole faite de Dieu pour que ainsi sa volonté puisse avoir lieu, pour que sa volonté soit faite. Comme souvent nous avons eu à le dire, aussi certain que frère Branham n'avait pas seulement révélé, n'avait pas seulement reçu la révélation de l'enseignement des apôtres et des mystères qui étaient cachés. Pas seulement ces choses ont été restituées et restaurées dans leur forme originale. Il a aussi dit que ce que Dieu fait par le messager, Dieu veut le faire aussi par toute l'Église. Avez-vous entendu cela? Ce qui reçoit le message divin. Comprenez-vous cela? À tous ceux qui reçoivent réellement ce message divin, Dieu veut faire la même chose qu'il a fait par le ministère de Frère Branham. La même manifestation surnaturelle du Dieu vivant. Dieu, comme ça, ne veut pas qu'on se moque de lui. Et l'Esprit de Dieu nous pénètre. En tant qu'Église, nous qui avons reçu ce message révélé, nous disons, Seigneur, nous nous tenons à ta disposition. Me voici, je t'appartiens entièrement. Je me tiens entièrement à ta disposition. Que tu puisses avoir ta bonne et parfaite et agréable volonté avec moi. N'oubliez pas cela. Le Dieu de notre Père, de nos pères, nous est apparu. Il y avait eu un objectif lié à cela. Pourquoi est-ce que ce mandat a eu lieu dans notre génération? C'était pour faire ta volonté. Nous avons lu dans Actes des Apôtres 22, verset 14. C'est pour connaître sa volonté, pour la faire, pour voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. L'appel divin. Dans un âge prophétique, nous lie avec Dieu et avec la parole de Dieu. Nous donne de nous soumettre au développement du programme de Dieu dans son conseil entièrement. Être soumis à ce que Dieu fait maintenant et y en prendre part. Et c'est seulement alors que la volonté de Dieu par nous pourra être faite. Alors si nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui existe comme ça dans l'univers, que personne n'a déjà vu et que personne n'a jamais entendu. Alors nous parlerons d'un Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, à nous personnellement, qui s'est révélé. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu, entendu. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Qui peut rendre ce témoignage? Tous ceux à qui il s'est révélé peuvent rendre ce témoignage. Vous savez que notre Seigneur avait dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Et après la résurrection, le Seigneur a dit, dis à mes frères, je les précède en Galilée. Là-bas, ils me verront. Le Seigneur marche encore aujourd'hui avec nous. Il parle encore aujourd'hui avec nous. Il vit et il est le même hier, aujourd'hui est le même, éternellement. Et ta parole produit toujours les faits. Produit toujours les faits pour lesquels elle est envoyée. Dans Colossiens, le chapitre 1, l'apôtre a encore une fois, venu à parler du mystère de la volonté de Dieu. Et je vous dis, comment est-ce que c'est? Nous tous, nous voulons nous préparer, frères et sœurs, à faire réellement la volonté de Dieu, à la faire. Dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence que donne l'Esprit de Dieu. Aux traductions, ce n'est pas par ma révélation ou bien par ta révélation, mais en toute sagesse et intelligence que donne l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la connaissance de sa volonté. Et alors, c'est une sagesse et une intelligence spirituelle, c'est une connaissance spirituelle qui nous a été accordée par Dieu. Ce n'est pas comme ça une révélation privée, et ce n'est pas non plus une doctrine privée, mais c'est la révélation de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ainsi que ainsi nous est manifesté, et cela nous a été révélé par l'Esprit de Dieu. Il est écrit encore ici dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9, être rempli de la connaissance, donc au verset 10, pour marcher, vous voyez, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, entièrement portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Pas dans sa propre connaissance, pas dans sa propre doctrine et dans sa propre imagination, mais dans la connaissance de Dieu. Bien-aimé, alors, donc en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une croissance telle que terrestrement. Quand la vie nouvelle vient dans ce monde, naît, il y a un nouveau-né, c'est un petit bébé. Mais alors, il commence. Il y a une croissance qui se manifeste. Et quand les premières semaines et les premiers mois et les premières années sont passées, on peut voir et constater terrestrement qu'il y a eu une croissance, n'est-ce pas? Elle est visible, terrestrement. Cette croissance-là est visible. Et elle est ordonnée par Dieu, voulue de Dieu. Et nous, les parents se réjouissent parce qu'ils constatent la croissance de l'enfant. Ils peuvent même le peser, n'est-ce pas? On peut même le peser et estimer la croissance. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais c'est la même chose spirituellement. On n'a pas le droit d'être de tels gens, d'être pesé, comme dit Daniel, et d'être trop léger. Trop léger pour l'âge que nous avons. Déjà depuis des années, nous sommes croyants et nous devrions aussi en conséquence avoir un certain poids. Alors, si nous sommes croyants et que nous croyons que nous sommes élus et prédestinés de Dieu avant même la fondation du monde, nous devons alors comprendre que Dieu ne nous donne pas des manquements. De lui, il n'y a pas de manquement. Dieu est riche et Dieu est capable de nous faire grandir. Tel qu'il est écrit déjà dans Éphésiens, il nous a déjà bénis de toute bénédiction qui est dans les lieux célestes en Christ. Et je crois que cela appartient à ça. Ce n'est pas seulement écrit comme ça, mais c'est vrai. Et plus vite nous pouvons croire, plus rapidement nous pouvons croire que déjà, croyez-vous cela? Crois-tu que déjà, tu es béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ? Crois-tu cela? Que le mur de lamentation, de séparation est déchiré, est ôté. Le rideau est déchiré, l'inimitié a été ôtée. Le lieu très saint est ouvert. Nous avons une libre entrée dans le lieu céleste, dans le lieu très saint. Nous devons d'abord le croire. Et vous savez que Israël, le peuple de Dieu, est une image pour l'Église du Nouveau Testament. Dieu a fait une alliance. Dieu a donné des promesses. Et voilà, ils sont devenus désobéissants. Ils ont marché dans leur propre chemin. Et ils ont brisé l'alliance. Et qu'est-ce qui leur est arrivé alors? Ils ont eu de grands problèmes. Ils ont été éparpillés partout. Et il a même écrit que l'épée les poursuivait. Dieu a dit les choses ainsi, et c'est ainsi que cela s'est accompli. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'église du Nouveau Testament? Le commencement était merveilleux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est arrivé? La grande apostasie, la grande chute. Il y a eu déjà de faux frères, de fausses doctrines, de fausses inspirations. Et les Biliam, les Nicolaïtes et tous ces gens. Et l'apostasie a déjà pris son cours. Mais Dieu dit, prenant sa parole, je veux vous restituer toutes les années perdues. Je veux restituer tout ce qui a été rongé. Cela doit être de nouveau restauré. On a seulement besoin de lire le prophète Joël et aussi d'autres versets. Dans Lévitique, le chapitre 26, le Seigneur a donné la raison pour laquelle il avait éparpillé son peuple, il les avait poursuivis par l'épée. Son peuple élu. Dans Lévitique, chapitre 26, verset 25. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Je ferai venir contre vous l'épée qui mangera mon alliance, qui vengera mon alliance quand vous vous rassemblerez dans vos villes. Dieu ne veut pas comme ça briser sa promesse. Il ne peut pas briser sa promesse et briser son alliance. Mais si son peuple de son côté brise son alliance, alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'ils sont sortis de la crainte devant Dieu. Et ils sont sortis de la protection de Dieu et des soins de Dieu. Et ils sont devenus la cible de l'adversaire. Ça a été la même chose avec l'église du Nouveau Testament. Au verset 32 dans Lévitique, chapitre 26, verset 32. Je dévasterai le pays. Oh Dieu. Est-ce que cela ne brise pas notre cœur? Dieu qui lui-même disait, je te donne un pays qui est rempli de lait. N'est-ce pas? Il y aura la pluie, un pays qui reçoit la vent, la pluie de l'avant et de l'arrière, c'est donc un pays qui est la couronne de la création, un pays béni. Et Dieu lui-même ici dit que je dévasterai ce pays. Et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Stupéfaits. À quoi est-ce que ça sert que l'adversaire soit stupéfait? Nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin du secours de Dieu. Même le peuple d'Israël. Tant que Israël avait accepté comme ça des accords avec des nations étrangères, rien ne s'était passé. Seulement quand Dieu interviendrait. Et c'est la même chose avec Israël. Tant que Israël comme ça accepte des contrats actuellement, des ententes partout, rien ne servira. Seulement quand le Seigneur interviendra. Mais il est écrit ici, au verset 33. Au verset 33 maintenant, de Lévitique chapitre 26, verset 33 maintenant. Verset 33. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Et maintenant, nous arrivons à Luc, chapitre 19, où le Seigneur pleure sur Jérusalem. Et remensionne l'expression déjà qui existait dans l'Ancien Testament et dit ce qui va se passer. Luc chapitre 19 à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. C'était sa ville, c'était son peuple. Il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation de Dieu. Ils avaient leurs propres interprétations sur la prophétie. Ils avaient leur imagination. Comment est-ce que cela s'accomplirait? Quand le Messie viendrait, ils savaient exactement comment est-ce que tout allait s'accomplir. Ils le savaient exactement à l'avance. Mais leur connaissance n'était pas selon la parole de Dieu, mais c'était leur propre imagination. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Tous veulent tirer Dieu de leur côté. Tous veulent que Dieu soit avec eux et que Dieu puisse agir partout où ils sont. Mais il y a un peuple appelé à sortir en tant qu'église d'épouse, un peuple de Dieu qui est séparé, mis à part de toutes les autres églises. Pensez-vous que cela ne nous est pas une grande douleur dans notre cœur? Comment nous souhaiterons que tous puissent oui, dire oui à la parole révélée de Dieu et que tous puissent la recevoir et l'accepter et la comprendre? Mais comme dit Israël, cela est écrit déjà. Seulement les élus, c'est écrit dans Romains 11, que seulement les élus ont atteint le but. L'élection n'est pas ta décision et ma décision. L'élection n'a rien à voir à faire avec toi. Notre Seigneur lui-même a dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nous avons été choisi, élu en Christ, et cela avant même la fondation du monde. Même le temps dans lequel nous vivons avait été prédit à l'avance. Et ce qui a se passé, et Dieu nous a accordé la grâce de reconnaître les jours, le jour et les signes des temps, de recevoir de reconnaître le message et la parole promise, les prophéties bibliques pour la fin des temps, de ne pas les interpréter, mais de les observer dans leur accomplissement, de les voir s'accomplir sans interpréter la prophétie, mais de la considérer dans son accomplissement. Et dans Luc chapitre 19, il est écrit, aussi au verset 43, dans Luc 19, verset 43, Luc 19, verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Est-ce que notre Seigneur n'a pas dit dans Matthieu 24, quand vous verrez Jérusalem entouré d'armées, alors que les croyants s'enfuient dans les collines de la Judée, et celui qui est dans le champ ne revient plus à la maison pour faire ses bagages, alors le moment est arrivé où cela s'accomplit. Et Joseph Foote, cet écrivain d'histoire, cet historien, a conservé le temps et a dit qu'aucun de ceux, qui croyaient au Messie et qui le suivaient ont été désobéissants et ont été trouvés dans la ville de Jérusalem quand elle a été brûlée et que le temple est allé en flammes et qu'il y a eu une destruction à Jérusalem. Les croyants se sont attachés à la parole du Seigneur, se sont rappelés de cette parole et ont mis cette parole en pratique et ont quitté la ville. Pensez à Abraham, pensez à Sodome. Lot sort avant que Sodome et Gomorre soient détruits. Nous aussi, Abraham n'était même pas là-bas, mais nous voyons le parallèle avec le temps d'aujourd'hui. Dieu nous a envoyé un message prophétique pour que nous puissions apprendre de tous ces exemples de l'Ancien Testament et aussi apprendre de ce qui s'était passé lors de la première venue du Christ et savoir ce qui de nouveau doit s'accomplir et se passer maintenant et se passe. Et nous avons ici dans le verset 44, dans Luc 19, toujours dans le verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Si Dieu envoie un prophète et pour révéler sa volonté à son peuple et pour nous introduire dans son plan de salut. Alors ça, ce n'est pas la question à poser, mais comment est-ce que je me tiens? Quelle relation j'ai avec le messager, avec l'homme de Dieu? Mais la question à poser, quelle relation j'ai avec Dieu? Avec Dieu, est-ce que j'ai assez de respect devant Dieu pour recevoir et accepter le ministère et l'envoi selon la parole de l'Écriture? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Qu'est-ce que notre Seigneur aujourd'hui dirait s'il était ici? Autrefois, il a parlé de Moïse et des prophètes et des psaumes. Il a montré aux disciples et il leur a montré tout ce qui s'était accompli le concernant. Et il a dit, est-ce que tout cela ne devait pas s'accomplir? Tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, il est aujourd'hui le même. Il a parlé avec Moïse. Il a commencé avec Moïse, avec les psaumes, avec les prophètes, avec le Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse. Dans notre temps, il nous a montré tout ce qui le concernait, tout ce qui devait s'accomplir. Et l'Église épouse. Pour finir, ne va pas comme ça avoir besoin de s'efforcer pour dire « Viens bientôt Seigneur Jésus ». Elle n'aura pas besoin de faire des efforts pour dire cela. Mais dans la dernière phase, s'accomplira que celui qui est impur demeure impur, que celui qui est pur se purifie encore plus. Dans les dernières phases du retour du Christ, il s'agira d'être entièrement ou alors à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Et quand la pression aura lieu contre l'Église, personne n'aura besoin de s'inquiéter et de s'efforcer à dire « Viens bientôt Seigneur Jésus-Christ ». Je vous dis que cela sera notre appel quotidien, notre prière, notre cri quotidien. Mais je vous dis que tout sera déjà très proche et je remercie déjà notre Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Que le plan du salut jusqu'à la fin est écrit déjà et que Dieu, pas à pas, nous conduit et nous dirige, nous accorde la clarté sur sa parole d'une manière que nous pouvons l'ordonner. Encore rapidement, peut-être en tant que citation, le verset d'Hébreux, chapitre 10, verset 7. Chapitre 10, verset 7. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Et Hébreux, chapitre 10, verset 10. Par le sacrifice unique apporté une fois pour tous, nous avons été sanctifiés. Et nous pensons aussi à Jean 17. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Et alors nous arrivons dans Hébreux 10, au verset 36. Après l'accomplissement de la volonté de Dieu, nous expérimenterons ce qu'il a promis. Hébreux 10, verset 36. Après avoir fait sa volonté, nous recevrons ce qu'il a promis. Mais bien aimé, le temps de vivre dans notre propre volonté, dans notre propre imagination, notre propre programme est fini, est passé. Maintenant, le temps est venu où nous devons faire ce qui est bon, parfait et agréable au Seigneur et être conduit par son Saint-Esprit en toutes choses et de vivre dans la communion les uns avec les autres et avec le Seigneur. Et que cela soit dit encore, c'est très important. La communion entre les frères et les sœurs en Christ, la communion entre parmi ceux qui ont été rachetés par le sang et nés de Dieu pour une espérance vivante, dépasse, sort du domaine naturel d'une famille, qui concerne une famille. Parce que dans une famille, cela peut se passer comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. Il dit, qu'est-ce que tu sais, homme, si tu ne sauveras pas ta femme? Ou bien alors, femme, si tu ne sauveras pas ton mari? Mais dans l'Église, tes premiers-nés, il y a seulement de telles personnes avec lesquels Dieu a un objectif précis. Ah, et ils atteindront le but. Ils sont appelés à sortir, mis à part. Ils sont sanctifiés, purifiés, éprouvés, blanchis, et ainsi prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Plus terrestrement, parfois, nos frères et nos sœurs, nos fils et nos filles marchent dans leur propre chemin. Mais spirituellement, hein, notre Seigneur a exprimé cette parole merveilleuse alors que la nouvelle lui avait été annoncée Ta mère et tes frères sont ici, et tes sœurs sont ici, et ils voudraient parler avec toi. Mais il a dit, mais qui sont ma mère, et qui sont mes frères, et qui sont mes sœurs? Et la Bible dit, et il a montré du doigt les disciples. Il a montré du doigt ceux qui le suivent. Et il a dit, ça, ce sont ma mère, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Et c'est ainsi qu'ils font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce sont ceux-là mes véritables frères et sœurs. Les véritables enfants de Dieu ont atteint le moment où ils ne le disent pas seulement. Et avec la bouche comme ça, ils confessent cela. Mais ils ne sont pas seulement des gens qui glorifient le Seigneur de leurs lèvres. Mais leur cœur est lié avec lui. Et ils font sa volonté de tout leur cœur. Le cœur est lié avec Dieu. Ils ne disent pas seulement que sa volonté soit faite, mais ils font sa volonté, que sa volonté soit faite dans ma vie, dans ta vie, qu'elle soit faite dans l'Église, qu'elle soit faite dans le monde entier, dans le peuple de Dieu, d'une manière que le Seigneur, lors de son retour, trouve une Église sans tache, sans défaut, irréprochable, sans rite, devant sa face, glorieuse, et tel que Paul le dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. Je veux conduire à Christ une épouse vierge, chaste. Ça, c'est notre désir à tous. Que l'Église épouse soit pure, soit conservée chaste. Et qu'il n'y ait pas de prostitution spirituelle qui ait lieu. Pas de mélange qui soit accepté. Mais un produit pur et saint de Dieu en tant que des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. En tant que des hommes qui marchent dans ses voies, dans sa voie, qui ont reçu la connaissance de sa volonté révélée, et c'est seulement ceux-là qui reçoivent la volonté de Dieu révélée qui ont la possibilité aussi de la faire. Et c'est seulement ceux qui la font qui ont la preuve que la parole vit en eux et qu'elle est en eux et qu'ils sont dans la parole. Et c'est ainsi que ceux qui sont destinés à cela vont accepter l'enseignement de la parole de Dieu et vont se laisser corriger par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et puisque nous avons déjà mentionné le baptême, cela appartient à cela. Il est écrit de prêcher à toute la création l'évangile, et que tous ceux qui croient et se laissent baptiser, il est écrit qu'ils seront sauvés. Celui qui demeure incrédule sera jugé. C'est ainsi que cela est écrit dans l'ordre missionnaire, dans Marc 16. Et nous avons aussi Matthieu 24, où cela nous est dit de baptiser dans le nom dans lequel Dieu, dans le Nouveau Testament, en tant que Père au ciel et dans le Fils sur cette terre et en nous par le Saint-Esprit, s'est révélé. Et nous l'élevons toujours de nouveau, nous le soulignons. Le nom de l'Alliance du Nouveau Testament, de Dieu le Seigneur, est Yahshua. Nous avons la forme grecque Jésus. Yahshua signifie Yahvé Sauveur. Et Yahvé était le nom que Dieu le Seigneur avait avant l'exode du peuple d'Israël de la servitude, avait révélé à Moïse en disant, je me suis fait connaître à Abraham et à Isaac et à Jacob, je me suis révélé à eux, mais avec mon nom Yahvé, je ne me suis pas fait connaître à eux. L'alliance devait être faite et le nom a été révélé, et maintenant l'exode a eu lieu et l'alliance a été faite. C'est ainsi que Dieu en Christ a révélé ce nom qui est au-dessus de tout nom, et dans ce nom il a fait une alliance avec nous. Ne brisez pas cette alliance, s'il vous plaît, par des traditions romaines dans lesquelles les formules sont répétées. Mais par la grâce de Dieu, nous avons reconnu qu'il ne s'agit pas comme ça de répéter l'ordre, encore moins comme ça des titres ou bien des formules. Il s'agit du nom au singulier. Celui qui reçoit, qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et tous ceux qui sont sauvés font une alliance d'une bonne conscience avec Dieu et se laissent baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ainsi témoigner, je suis crucifié, mort avec Christ. Et ainsi, je me laisse maintenant avec lui, par le baptême, ensevelir avec lui, pour ainsi ressusciter avec lui, pour, comme les Écritures le disent, et marcher en nouveauté de vie avec lui. Et notre Seigneur, par la résurrection, a accordé la nouvelle vie, a manifesté la nouvelle vie pour nous. Et nous avons la grâce de ne pas seulement estimer cela et d'écouter cela, mais avons la grâce d'expérimenter tout cela encore aujourd'hui. Si quelques-uns parmi nous seraient ici qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, que maintenant cela vous soit conseillé sur l'autorité de la parole de Dieu. Faites sortir tout le levain, toutes les doctrines, toutes les dogmes, tout ce qui n'est pas en accord avec l'enseignement des apôtres et la pratique apostolique. Faites sortir tout cela et soumettez-vous à la main puissante de Dieu et ayez un oui dans tout votre cœur à Dieu et à sa parole. Et commencez ainsi à marcher dans la foi, entreprenant le chemin étroit dans l'obéissance à la parole de Dieu de la bonne manière. Que le Dieu fidèle éternel puisse nous bénir tous. Sa présence est descendue sur nous jusqu'à la guerre. Donc Dieu campe parmi nous par sa présence. Il campe parmi son peuple dans les réunions. Sa parole devient une puissance en tous ceux qui croient. Et nous avons dit déjà, chanté au commencement, crois seulement. Et maintenant déjà, nous allons encore maintenant chanter, crois seulement, et nous nous levons pour le faire. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons écouté sa parole, les paroles de l'Alliance, les paroles de la vie. Le Seigneur a parlé avec nous. Avant de passer à la dernière phase de cette réunion et de passer au baptême, je voudrais poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais certain à qui Dieu directement aurait parlé, vous ressentez, vous savez, et vous voulez remettre votre vie entièrement, la consacrer au Seigneur, que ce soit ceux qui sont ajoutés nouvellement ou bien qui sont là pour la première fois, ça n'a pas d'importance. Que sa parole aujourd'hui puisse produire l'effet pour lequel elle est envoyée. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui voudrait être introduit dans la prière? Levez s'il vous plaît les mains. Oui, il y en a quelques-uns, il y a tout un nombre. C'est vraiment merveilleux. Est-ce que vous pouvez croire? Est-ce que vous pouvez maintenant croire que le Seigneur, selon sa promesse, est parmi nous? Et qu'aujourd'hui, encore, il est le même. Il sauve, il libère, il guérit tout ce qui a eu lieu dans le ministère de Jésus a lieu encore aujourd'hui. L'œuvre de la rédemption a eu lieu. Et ce qui est contenu dans cette œuvre, nous pouvons l'expérimenter jusqu'à dans le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons maintenant lever les mains et chanter tel que je suis. Ça rien de moi.
Thank you.
Nous croyons que le Seigneur est présent et qu'il accorde à chacun, il rencontre tout un chacun là où nous sommes, là où chacun se trouve. Il accorde à chacun ce dont il a besoin. Le salut, la guérison, la délivrance, la certitude de la foi. Ça n'a pas d'importance quelle est la requête. Recevez déjà maintenant la réponse du Seigneur. Par sa parole, il s'est adressé à nous. Et nous le croyons. Nous croyons tel que l'a dit le Saint Écriture. Et c'est accompli. Ça a eu lieu. Le Seigneur, dans sa résurrection, dans sa puissance de la résurrection, s'est révélé. La Pentecôte n'est pas un jour de fête. La Pentecôte est une expérience. Le déversement du Saint-Esprit. Dans la chair, Dieu était avec nous en Jésus-Christ. En esprit, Dieu est à nous par le déversement de cet esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Alléluia. Le même et unique Dieu qui agit tout en tous. Loué et gloire et honneur soit apporté au Dieu vivant. Nous voulons maintenant encore remercier le Seigneur. Je demande au frère Rousse qu'il puisse venir et prier avec nous, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, nous venons tous tel que nous sommes et nous te remercions de la plénitude de notre cœur pour ta sainte et précieuse parole qui de nouveau a retenti, nous a été adressée, qu'elle puisse être tombée dans notre cœur réellement. Et vraiment, Seigneur, qu'elle puisse avoir des racines profondes et que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Nous te demandons cela dans ton saint prochain nom. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos frères et nos sœurs. Bénis tous ceux qui sont venus, qui peut-être seraient là pour la première fois. Que tu puisses les agréer et accorder ta grâce à chacun. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons et nous t'exaltons. Toi, ton saint nom glorieux. Reçois l'honneur et l'adoration pour tout et particulièrement tous ceux qui ont levé leurs mains. Que tu puisses accorder ta grâce. Alléluia. La victoire de Dieu, la puissance de Dieu est manifestée. Alléluia. 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 Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Remercie le Seigneur. Louez son Saint-Nom. Que son nom soit loué et exalté. Alléluia. Louez-le. Parce qu'il a fait de grandes choses. Amen. Alléluia. 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 Louez et honneur et adoration. La victoire de Dieu est manifestée parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur. Gloire à Dieu le Seigneur. Gloire à Dieu le Seigneur. Louez son Saint-Nom. Louez sa parole. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Sébaoth. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Croyez-vous vraiment tous que le Seigneur est parmi nous? Croyez-vous cela? Dites Amen. Amen. Croyez-vous cela vraiment? Croyez-vous qu'il a parlé avec nous? Dites Amen. Croyez-vous qu'il nous introduit dans sa volonté? Amen. Que ta volonté soit faite. La puissance de Satan est brisé. En Jésus-Christ, de ce nom, alléluia, la puissance de Dieu est manifestée. Alléluia. Et la parole qui a été révélée devient une puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, la puissance de Golgotha. Nous nous asseyons. Je voudrais demander que tous ceux qui voudraient se laisser baptiser viennent maintenant pour un moment devant pour que nous puissions encore prier particulièrement pour vous. Tous ceux qui voudraient se laisser baptiser et qui ont le désir, ils savent que le temps est sérieux et nous devons le prendre au sérieux avec notre vie. Tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour toi-même. Oui. Alors venez devant, oui, alors nous voulons. Oui, c'est bien. Je n'ai rien à dire. J'avais écouté déjà la parole. Et vous êtes décidé à faire ce pas du baptême. Et je voudrais seulement de tout mon cœur d'écouter votre oui. Tu es décidé à suivre le Seigneur. Sœur aussi, toi aussi, à suivre le Seigneur. Bien-aimé frère, toi aussi, tu es décidé à suivre le Seigneur. Oui. Bien-aimé sœur, tu es décidé à suivre le Seigneur. Oui. Toi aussi, bien-aimé jeune sœur, devant moi, tu es aussi décidé à suivre le Seigneur. Oui. Toi aussi, tu es décidé à suivre le Seigneur. Oui. À l'aimer de tout ton cœur. Oui. À partir de maintenant, c'est un nouveau chemin dans votre vie. En fait, oui. Ce n'est plus le vieux chemin, mais c'est un nouveau chemin. Toi aussi, sœur, tu as décidé. Elle comprend? Oui. Toi aussi, bien-aimée sœur, tu as décidé. Oui. Ils ont tous répondu par un oui. Le Seigneur a écouté. Le Seigneur veut l'écouter. Pas moi. Et vous avez reçu ce témoignage devant Dieu, devant moi et devant toute l'Église maintenant. Et le Seigneur, qui est plus dans la réalité, vous accorde sa grâce à marcher avec lui jusqu'à ce que vous passiez de la foi à la vue. Et nous voulons maintenant prier pour vous et nous voulons passer au baptême. En face, vous pouvez un bâtiment, vous pouvez vous changer en bas. Et alors un frère Schmitt viendra qui vous baptisera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous couvrons nos têtes pour la prière. Bien-aimé Seigneur, tu as entendu ces oui. Seigneur, que ce ne soit pas seulement des oui qui auraient été prononcés à la légère, mais que cela soit venu de la profondeur de leur cœur. Accorde à ceux qui vont se laisser baptiser maintenant, Seigneur, ta grâce, dans la suite de leur vie, de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur notre Dieu, que tu puisses accorder ta grâce à tes jeunes frères et sœurs. Oh Dieu, nous te demandons ta miséricorde. Fais-nous grâce dans ces derniers temps. Accorde ta grâce aussi à ceux qui vont se laisser baptiser maintenant. Là où chacun se trouve, que tu puisses être avec chacun et demeurer avec chacun jusqu'à ce que nous passions à tous de la foi à la vie. C'est ma prière pour ces jeunes. Amen. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à Jésus. Bien-aimés, à vous tous, nous vous disons merci de ce que vous êtes soyez venus. Et le Dieu fidèle qui puisse aussi être avec chacun de vous, maintenant alors que vous repartez à la maison, jusqu'à que nous nous revoyons. lors des grandes réunions à la fin, au début de la semaine, et vous saluez, vous mettez des attachants partout là où vous vous trouverez, et que la bénédiction de Dieu soit avec vous partout. C'est ma prière et c'est mon désir adressé à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. C'est ça le 1er juin. Le 1er juin. Ça va remettre la grâce du Seigneur, oui. Nous allons tous au bassin et vous pouvez vous changer là où il y a l'eau et tout se passera.